L'invité du jour.
Le conclave qui élira le successeur du pape François débutera le 7 mai prochain. Le mercredi 7 mai au matin, les cardinaux prendront part à une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre. Les cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans se réuniront ensuite dans la chapelle Sixtine au cours de l'après-midi. Ce scrutin à huis clos peut durer plusieurs jours. Il se tient dans le plus grand secret. Il prévoit ensuite 4 votes par jour, de le matin, de l'après-midi. L'invité du jour, le père Christian Delorme, prêtre de l'archidiocèse de Lyon, très impliqué dans le dialogue interreligieux. Il est notamment connu pour être l'un des initiateurs de la marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983, le père Christian Delorme.
J'ai une infinie reconnaissance pour le pape François. En 12 ans de pontificat, il a été un magnifique témoin d'humanité et d'évangile. Il a beaucoup bougé l'Église dans le sens de la simplicité, dans le sens d'une réforme pour que l'Église soit plus démocratique d'une certaine manière, qu'elle fasse davantage participer le peuple chrétien à tous les échelons de la réflexion, de la décision. Il a été le pape le plus grand défenseur, je crois pouvoir dire mondial, qui n'a jamais existé, d'immigrants dans le monde. Et il a été un artisan de paix. Voilà. Donc moi, ma reconnaissance est immense. J'ai beaucoup aimé ce pape. Alors maintenant, ben voilà, il est arrivé au bout de la route. C'est extraordinaire. Sa fin est incroyable. Bon, on pensait qu'il allait mourir plus tôt quand il a été hospitalisé il y a quelques semaines. Et puis là, il arrive à tenir jusqu'au temps de Pâques. Il reçoit, on peut dire d'une certaine manière, son pire ennemi. Ça, c'est très évangélique. Le vice-président Vance, qui représente le catholicisme identitaire, raciste, intégriste, intolérant, violent, il le reçoit. C'est la dernière personnalité politique du monde qu'il reçoit. Et puis après, il a encore le temps de saluer le peuple romain et tous ceux qui étaient là sur la place Saint-Pierre. Donc c'est une fin absolument incroyable. Et le croyant que je suis, il voit une miséricorde de Dieu. Voilà. Alors maintenant, on arrive à ce conclave. Alors c'est intéressant parce que je ne sais pas si nos auditeurs peuvent mesurer, mais l'élection d'un pape, ça n'a rien de comparable à une élection politique. Pourquoi ? D'abord parce qu'il n'y a pas de candidat. Personne ne peut dire « je suis candidat pour devenir pape ». C'est-à-dire celui qui dirait « je suis candidat pour devenir pape », on l'éliminerait aussi. On dirait « c'est pas la peine qu'on fasse attention à toi ». Ensuite, il faut que les cardinaux, là, ils sont plus de 130, arrivent à se mettre d'accord à l'unanimité. Et donc, il va y avoir plusieurs tours de vote et au bout d'un moment, il n'y aura plus que deux personnes qui vont émerger. Et la tradition veut que celui qui est en deuxième position dise, ben voilà, la volonté de Dieu, c'est que ce soit celui qui me précède qui soit élu pape. C'est le doigt de Dieu. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est dans ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que les cardinaux ensemble sont en train de réfléchir, ils se rendent concert, ils se rencontrent, ils passent beaucoup de temps ensemble, ils se connaissent pas tous, parce qu'ils viennent du monde entier, donc ils font connaissance, et ils essayent de tracer le portrait du pape idéal pour les années à venir, voilà. Et c'est sur cette base qu'ils vont se décider. Alors beaucoup ont dit, le pape François, il a nommé des cardinaux qui lui ressemblent, la majorité des cardinaux actuels ont été nommés par lui. Donc, certains disent obligatoirement, on va avoir un François II. Ben non, parce que le pape François, il a nommé des cardinaux dont la caractéristique est d'être proche des pauvres. Mais il n'a pas fait un choix entre ceux qui seraient plus progressistes et ceux qui seraient moins progressistes. Entre ceux qui sont plus liturges et ceux qui sont plus tournés vers les questions de société. Voilà. Donc, c'est une élection qui est totalement imprévisible. Alors, bien sûr, comme à chaque fois, il y a des noms qui circulent. Parce qu'il y a des cardinaux qui sont plus connus que d'autres, qui ont plus d'ampleur que d'autres, et qui ont plus de métier que d'autres aussi. Mais en même temps, l'histoire nous montre que souvent, les pronostics se sont déjoués. J'ai vu que les parieurs anglais se déchaînaient à ce sujet, mais qu'il y avait deux, trois noms qui émergeraient régulièrement, mais... Rien n'est sûr à ce niveau-là.
Et lorsque l'on parle justement de pape conservateur ou de pape progressiste, n'est-ce pas là un raccourci particulièrement important?
Oui, c'est un raccourci. En fait, le clivage aujourd'hui dans l'Église catholique, et c'est sans doute vrai dans d'autres religions, c'est entre ceux qui sont pour le dialogue avec le monde tel qu'il est et qui considèrent que on doit avoir un témoignage évangélique qui s'adresse à tous, qui soit inclusif. Par exemple, le pape François, il a choqué un certain nombre de milieux quand, à propos des personnes homosexuelles, il a dit « qui suis-je pour juger ?» Mais le pape François, il a essayé d'être à la manière de Jésus. Jésus n'a jamais condamné personne. Jésus a toujours accueilli. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas dit « maintenant, convertis-toi, ne pêche plus hein. ». Mais le pape François, il est dans cette logique et de dialogue avec le monde et d'inclusion. Il y en a d'autres qui sont pour un catholicisme plus identitaire, plus affirmatif de la foi et plus centré sur la liturgie, une liturgie très réglée, sur une dogmatique très scrupuleusement observée. Voilà, le clivage, il est là. Tout à l'heure, je vous parlais du vice-président Vance. Vance représente ce conservatisme catholique qui centre tous sur le refus de l'avortement, mais qui en revanche méprise les migrants, mais qui en revanche refuse le dialogue interreligieux. Mais qui en revanche n'accepte pas l'ouverture humaine, ça ne veut pas dire l'ouverture au niveau de la pensée, de la doctrine, mais l'ouverture humaine aux personnes, par exemple, transgenres. Voilà. C'est le clivage, il est là. Alors, on ne peut pas parler de progressiste et de conservateur comme on peut en parler dans le registre politique, si vous voulez.
Pourquoi aucun cardinal ne peut être candidat à la papauté?
Parce que ça serait mauvais signe. C'est-à-dire que la conviction de l'Église, c'est quand un pape est élu, c'est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu, il se manifeste quand tous les cardinaux réunis se sont mis d'accord sur une personne. On ne peut pas être candidat. Si on est candidat, ça veut dire qu'on a un ego surdimensionné, qu'on pense qu'on est capable d'être le chef de l'Église. Ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. Celui qui sera nommé, il va tout de suite avouer son humilité, son indignité. Il aura un mérite incroyable parce que quand même être le chef d'un peuple catholique de 1,4 milliard de personnes, je crois, aujourd'hui. C'est une sacrée charge sur les épaules. Moi, j'ai été curé de paroisse. Déjà, à dire, j'ai, 1,500 familles dans ma paroisse catholique, c'est déjà une charge. Alors, quand vous êtes le pasteur d'1,4 milliard de personnes, c'est une charge incroyable. D'autant plus que les gens qui sont élus, ils sont déjà âgés. Bon, Jean-Paul II avait une cinquantaine d'années, c'était un pape très jeune. Mais bon, François, il est arrivé à l'âge de la retraite, largement à la retraite ecclésiastique, à 75 ans, il s'est retrouvé pape. Hein. Et il avait d'ailleurs déjà une chambre dans une résidence de prêtre âgé. C'est ça qui est assez incroyable. Et puis, il a trouvé une force, une grâce, ce qu'on appelle l'état de grâce. C'est-à-dire qu'il a été capable d'assumer cette charge jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, quoi.
Et vous attendez du prochain pape élu qu'il poursuive le travail de François dans le domaine du dialogue interreligieux?
Je pense que ça, c'est une évolution de l'Église catholique depuis le Concile Vatican II, sur laquelle aucun pape ne peut revenir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le pape, il est certes le chef des catholiques, c'est d'abord sa mission, il est le pasteur du peuple catholique, mais il est aussi chef d'État. C'est un statut tout à fait à part dans l'histoire, et c'est une instance qui porte le souci de la paix mondiale. Depuis, on peut dire un siècle, hein, depuis le pape Benoît XV pendant la guerre de 14-18, les papes sont devenus des sortes de gardiens universels de la paix mondiale. Tous, chacun avec sa personnalité, son histoire. Hein. Et aujourd'hui, la paix mondiale, elle passe par la paix des religions. Le monde ne peut pas se permettre des guerres de religion. Le monde ne peut pas se permettre que les religions mettent du carburant de haine dans les conflits humains. Et donc le pape, une de ses fonctions, outre celle pour le pape catholique, c'est aussi d'être un gardien de la paix mondiale.
Vous évoquiez la défense des migrants de la part du pape François. Ces orientations du pape ont été critiquées par une frange de la classe politique dans différents pays, alors qu'il ne s'agissait tout simplement que de retranscrire le message originel de l'Église.
Vous savez, le message du Christ, le message de l'Évangile, c'est un message qui bouscule. C'est un message qui remet en cause les pouvoirs, les puissants, tous ceux qui font preuve d'égoïsme. C'est pas un message contre les riches, mais c'est un message contre les riches qui ne partagent pas. C'est pas un message contre les hommes politiques, mais c'est un message contre les hommes politiques qui se servent au lieu de servir leur peuple. Voilà. Et donc le pape François dérangeait. Et il est sûr que la réalité, le pape François était un prophète dans son soutien constant aux migrants du monde, parce que les migrations sont inévitablement l'avenir du monde, inévitablement, à cause d'une part du vieillissement d'un certain nombre de sociétés qui ne pourront plus exister si elles n'ont pas des apports migratoires. La France en fait partie, l'Allemagne en fait partie, etc. Mais d'autre part parce que les réalités du monde, notamment le réchauffement climatique, sont en train de mettre sur les routes de l'exil des millions de personnes. Et le pape François, il a clairement dit cela et dit que tout homme, tout être humain a le droit de chercher à vivre un peu mieux, de pouvoir chercher la sécurité, donc a le droit de migrer. Et ça, bien sûr, ça dérange certains groupes, surtout ceux qui font profession politique sur la xénophobie, sur la haine de l'étranger, sur, aujourd'hui on en parle, de l'islamophobie. Hein, voilà. Et bien sûr qu'il a eu beaucoup d'ennemis, y compris en France, parmi une partie de la classe politique française, parmi même certains membres du clergé français, hein, à cause de cela. Mais je crois qu'il était dans la vérité de l'Évangile.
Merci, Père Christian Delorme. Merci
beaucoup à vous.
Je rappelle que vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Lyon. Vous êtes particulièrement impliqué dans le dialogue interreligieux et notamment avec les musulmans. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
L'invité du jour.